International Rescue Committee présente la mini-série sur les normes minimales pour la programmation d'action de lutte contre la VGB qui met l'accent sur les vies de Claudine, Esther et Asma. Trois employés travaillant dans une organisation nationale de défense des droits des femmes. Cette série spéciale est diffusée sur le podcast « Protection et autonomisation des femmes » où nous donnons la parole aux femmes et aux filles dans les contextes humanitaires. Ce projet est rendu possible grâce au Bureau de l'aide humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bienvenue au sixième épisode de la mini-série sur les normes minimales interorganisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB.
Bienvenue à toutes à notre session de groupe hebdomadaire pour parler de tout ce qui concerne la gestion des cas. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller vous chercher du thé et un biscuit avant de commencer.
J'ai un cas à traiter, je ne suis pas sûre de la meilleure façon de soutenir la survivante. Pourrions-nous en parler après la réunion?
Tu veux demander au groupe? C'est un espace idéal pour apprendre. Nous passons toutes par le même processus, en engageant une série de prestataires de services pour répondre aux besoins immédiats des survivantes et soutenir leur rétablissement à long terme. Il pourrait être utile de passer en revue les étapes cruciales et d'entendre les idées des autres. N'oublie pas que tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite. On écoute et on apprend parfois mieux des autres.
Je veille toujours au consentement éclairé et à la confidentialité et je respecte les souhaits de mes clientes. Mais le cas est si complexe, je ne sais pas quoi faire exactement.
C'est pour ça que nous sommes là, pour fournir aux survivantes des informations complètes afin qu'elles puissent faire des choix éclairés, notamment en ce qui concerne le recours aux services multisectoriels de lutte contre la VGB. En outre, il est également important de les informer des conséquences possibles de l'accès à ces services.
Je peux donc parler des détails du cas lors de la réunion?
Sans partager de nom. Contente-toi des informations générales sur le défi, sans rien d'identifiant ou de vraiment spécifique. Certaines partagent les leçons apprises ou les leçons potentielles. Il est important de ne pas partager une information qui pourrait identifier la survivante, même dans cet espace.
Ok, je peux faire ça.
Ok, tout le monde, prenons place. Parfois, je pose une question au groupe et parfois, nous faisons un tour de table pour parler des défis ou des leçons. Je pense que quelqu'un d'autre veut peut-être commencer aujourd'hui. Claudine?
Une personne est venue me voir. Son mari là-bas depuis longtemps. Je l'ai écouté et lui ai proposé de la référer à un médecin pour soigner ses brûlures au bras. Mais elle refuse de s'y rendre. Je vois les marques rouges sur son bras. Je sais que le médecin pourrait l'aider, que ça ne va pas s'arranger tout seul. Mais elle
ne veut pas y aller?
Non, elle ne veut pas. Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui peut l'aider et elle ne veut pas. Je comprends que c'est son choix, mais pourquoi ne voudrait-elle pas recevoir d'aide?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends ce que tu dis et ce que tu ressens. Je suis passée par là. Il est parfois difficile de s'assurer que l'on n'entraîne pas une survivante dans ce que l'on souhaite pour elle. Tu n'es pas la seule dans ce cas. Mais j'aime penser à ça de leur point de vue. Par exemple, je ne voudrais pas que quelqu'un m'oblige à faire quelque chose, ou même mette la pression pour que je fasse quelque chose que je ne veux pas faire. Et c'est un peu la raison pour laquelle elles sont ici, pour être entendues, pour recevoir le soutien qu'elles veulent, pour prendre leurs propres décisions. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour y réfléchir.
Je sais, je veux dire, je le sais en théorie, mais son mari le refera, je sais qu'il le refera, elle est déjà passée par là.
Est-ce que tu lui as demandé ce qu'elle pense qu'il lui arrivera si elle consulte un médecin?
Eh bien...
Parfois, poser une question comme celle-là peut aider une personne à réfléchir à un processus, et cela peut aussi être un moyen de s'assurer qu'elle prend des décisions en toute connaissance de cause.
Donc, parler avec elle de ce que pourrait être le processus du début à la fin? Mais je ne suis pas médecin, je ne sais pas tout sur le sujet.
Mais tu connais bien le processus de référencement, les informations que nous partageons avec le médecin, et tu sais qu'elle peut se contenter de poser des questions et qu'elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle ne veut pas faire. Peut-être qu'elle pense qu'elle devra répéter son histoire au médecin, ou peut-être qu'elle craint que si les gens te voient l'accompagner, ils se rendront compte qu'elle est une survivante et elle ne le veut pas. Peut-être qu'elle veut que tu sois dans la pièce avec elle pour la soutenir, ou peut-être qu'elle n'est tout simplement pas prête. Si tu ralentis, que tu l'accompagnes dans sa démarche, que tu l'écoutes, que tu réponds à ses questions et que tu t'assures qu'elle a le temps d'y réfléchir, tu sauras au moins qu'elle prend une décision éclairée. En fin de compte, c'est sa décision à elle.
Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je pense à ma sœur et à comment elle a obtenu de l'aide. Bien que j'aurais souhaité qu'elle le fasse plus tôt, ou peut-être même qu'elle quitte son mari.
Ton cœur est en bon endroit, Claudine. C'est juste que nous ne savons pas à quoi consiste la vie des gens dans leur intimité. Tout ce que nous savons, c'est ce que les gens nous disent, et ce que nous pouvons faire, c'est les écouter. Les femmes sont les mieux placées pour décider de ce qui est bon pour leur vie, et elles sont aussi les seules à pouvoir prendre ces décisions.
Je comprends. Je sais que ce serait bien pire si je la forçais à voir le docteur. Même si je le dis à voix haute, ça me semble évident. Elle pourrait me détester pour ça et peut-être détester nos services et ne pas nous faire confiance. Et qui sait, elle pourrait dire à d'autres personnes de ne pas nous faire confiance non plus.
En effet. Mais tu sais quoi? J'ai aussi rencontré un cas où la survivante était réticente d'aller à la clinique. Ce n'est pas le premier cas ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est quelque chose de commun à plusieurs cas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe.
On dirait que c'est une bonne question à poser pour voir si quelque chose a changé. Si nous voyons beaucoup de références refusées, il peut s'agir d'un problème d'accès. Faisons un suivi avec la clinique demain, Asma.
Oh, absolument, Esther. Je suis d'accord sur le fait qu'il est très important d'examiner et de mettre à jour régulièrement les services de lutte contre la VBG existants et les lacunes que nous avons, afin de pouvoir élaborer un plan pour y remédier avec les prestataires de services.
Une autre chose, elle m'a demandé si elle pouvait avoir mon numéro de portable pour m'appeler au cas où elle aurait besoin d'aide. J'ai failli le lui donner, mais je me suis souvenue qu'on ne devait pas faire ça.
Je suis contente que tu te sois arrêtée pour y réfléchir. L'une des parties les plus difficiles de notre travail est de fixer des limites. Nous sommes toutes humaines et c'est un travail gratifiant, mais compliqué. Il est donc important de réserver du temps pour nous-mêmes, en dehors du travail, car nous avons aussi besoin de nous reposer et de récupérer. Que lui as-tu dit?
Nous avons fait une planification très détaillée de la sécurité et je lui ai donné le numéro de la ligne d'assistance téléphonique en cas d'urgence. Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être que j'aurais dû...
C'est parfait, Claudine. Tu as bien fait de prévoir la planification de la sécurité et de mettre en place cette limite. Ce n'est pas simple. As-tu d'autres questions, Claudine?
Non, je suppose que j'avais juste besoin d'exprimer mon problème. J'ai la réponse maintenant. Ça semblait juste très compliqué. Ça m'a aidé de le dire à voix haute.
Ça aide beaucoup. Nous sommes toutes là pour te soutenir et cet espace est exactement fait pour ça. Alors n'hésite jamais.
Merci tout le monde.
Je veux passer à notre opportunité de formation hebdomadaire. Mais d'abord, je voulais remercier les membres de cette équipe. C'est formidable de travailler avec autant de défenseuses des survivantes, d'avoir un groupe qui est ancré dans les principes directeurs de ce travail et qui peut également se soutenir mutuellement. Merci à toutes.
L'une des normes minimales pour la programmation d'action de lutte contre la VGB est que les survivantes de VGB aient accès à des services de gestion de cas appropriés et de qualité, y compris des soins coordonnés et un soutien pour naviguer dans les services disponibles. La gestion des cas de VGB implique des personnes formées au soutien psychosocial ou aux services sociaux qui, 1. Prennent la responsabilité de s'assurer que les survivantes sont informées de toutes les options qui s'offrent à elles et les orientent vers les services pertinents en fonction de leur consentement. 2. Identifient et suivent les problèmes auxquels la survivante et sa famille, le cas échéant, est confrontée de manière coordonnée. Et 3. Fournissent à la survivante un soutien émotionnel tout au long du processus. C'est ainsi que nous clôturons le 6e épisode de la mini-série sur les normes minimales inter-organisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB. Si vous utilisez le guide d'animation pour poursuivre votre apprentissage, nous espérons que ce n'est que le début de votre discussion.